VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Ouagadougou, 13h à Bangui. Bienvenue à notre journal. En RDC, plus de 3000 personnes ont été tuées depuis octobre 2016 dans le Kassai, suite aux violences qui secouent cette région du centre du pays. C'est ce qu'affirme un document de la Nonciature apostolique à Kinshasa. Selon cette note technique de la mission diplomatique du Vatican RDC, 3383 personnes sont décédées depuis octobre dans le Kassai, alors que l'ONU avançait jusqu'à présent un bilan de plus de 400 morts. Le document de l'Annonciature, daté du 19 juin, souligne notamment que 20 villages ont été complètement détruits, dont 10 par les FARDC, l'armée nationale congolaise, 4 par les miliciens et 6 par des auteurs inconnus. Les violences au Kassai opposent notamment les forces de sécurité congolaises aux partisans de Kamuina Nsapu, un chef traditionnel tué en août 2016 après s'être révolté contre l'autorité de Kinshasa. RCA, un accord de paix prévoyant un cessez-le-feu immédiat a été signé lundi à Rome en Italie sous l'égide de la communauté catholique de Sant'Egidio entre le gouvernement centrafricain et les groupes armés. Les détails avec Ekia Badou.
Nous saluons un accord historique pour la République centrafricaine, s'est félicité le président de Sant'Egidio. Après 5 jours de négociations, les parties se sont engagées à un cessez-le-feu immédiat sous le contrôle de la communauté internationale. L'accord a été rendu public au siège romain de cette communauté, très impliquée dans les médiations en Afrique. Le gouvernement de Bangui devra se charger d'obtenir la représentativité des groupes militaires à tous les niveaux, poursuit l'accord, ainsi qu'à la reconnaissance de ces groupes comme partie prenante de la reconstruction. Sur le plan sécuritaire, les signataires s'engagent à la reprise de la libre circulation des personnes et des biens et à la mise en place d'un mécanisme conjoint de sécurité. Des membres des groupes armés feront l'objet d'une insertion dans les forces de défense sur la base de critères préétablis et suite à une mise à niveau. Sur le plan social et économique, les signataires s'engagent entre autres au retour de tous les réfugiés et personnes déplacées et à la mise en place de programmes nationaux de reconstruction et de développement.
Et on sait à toujours plus de 600 soldats du Congo-Brazzaville déployés par l'ONU en Centrafrique et accusés d'agression sexuelle vont être envoyés chez eux. C'est ce qu'ont affirmé des responsables de l'ONU lundi. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, devrait annoncer le départ de ses militaires aujourd'hui lors d'une conférence de presse aux Nations Unies. Cette décision fait suite à un rapport accablant d'un responsable de la MINUSCA, la mission de l'ONU en Centrafrique, qui avait menacé de rapatrier ses soldats si rien n'était fait au sein du bataillon visé. Outre des agressions sexuelles, les militaires en question sont accusés de trafiquer du carburant et de manquer de discipline. Le problème des réfugiés au Tchad, maintenant 84% des réfugiés dans le monde se trouvent dans les pays en voie de développement ou à revenu moyen. Le Tchad est le pays qui accueille le plus de réfugiés par rapport à sa population. Il occupe la 4e place dans le monde pour le nombre des réfugiés après le Liban, la Syrie et la Jordanie. Solange Niamilsa a joint Lydie Navig, chef de bureau du ACR à Bagassola au Tchad, pour un état des lieux par rapport aux réfugiés de la région du lac Tchad.
Pour la région du lac Tchad, nous accueillons essentiellement les réfugiés venus du Nigeria qui ont fui la crise Boko Haram. Mais le Tchad a d'autres réfugiés d'autres nationalités. Aujourd'hui, on a environ 8000 réfugiés au niveau du lac Tchad qui ont fui les exactions menées par la secte Boko Haram. Mais on a beaucoup plus de personnes qui se sont déplacées à l'intérieur même du Tchad. Il y en a environ 100 000 actuellement.
Quels sont les défis que rencontrent ces réfugiés?
Il y a de nombreux défis. Il y a des défis du point de vue de la sécurité, des défis du point de vue de la protection et des défis du point de vue socio-économique. En ce qui concerne la sécurité, avec les activités persistantes d'éléments Boko Haram, la communauté humanitaire a du mal à se déplacer vers ces personnes-là, ça c'est un. Et deuxièmement, ces personnes-là sont obligées de fuir, de laisser tout tomber, de recommencer une nouvelle vie ailleurs. Ils ne sont pas dans les endroits qu'ils connaissaient avant. Ils sont coupés de tous leurs moyens de subsistance. Un autre problème aussi, il y a un grand déficit en matière d'éducation et en matière de structure étatique même. Et donc, une des grandes conséquences de cela, c'est qu'on assiste à des personnes qui n'ont aucune documentation, ni extrait de naissance, ni carte d'identité.
Chaque mois, le HCR demande l'argent pour aider les réfugiés, mais il ne reçoit pas. Est-ce que vous avez assez de moyens pour répondre tout justement à ces défis?
Bon, en termes de moyens, vous savez, c'est jamais assez. C'est jamais assez. C'est pour ça que nous sommes en train de changer, si vous voulez, de politique. le moment de l'urgence est passé où on leur donnait une assistance à 100%, c'est-à-dire on a construit des abris pour eux, on a construit des latrines, des douches, des bacs à ordures, enfin tout. On leur a donné un centre de santé où les soins sont gratuits, les médicaments sont gratuits. On leur a ouvert des écoles où l'enseignement est gratuit et où les communautés hôtes peuvent venir aussi. Jusqu'à présent, on leur donne des vivres tous les mois, mais c'est jamais assez. C'est pour ça que, justement, on essaie maintenant de basculer sur les activités qui permettent l'autonomisation, mais en même temps qui gèrent les problèmes de coexistence entre les populations. Nous sommes en cela, c'est ça notre gros défi, c'est ça notre gros objectif, de pouvoir amener ces populations à être autonomes. On est en train de voir comment on peut les former, par exemple. On commence au niveau des jeunes, des adolescents, en termes de couture, de mécanique, de petites choses comme ça, pour qu'ils puissent avoir des activités. Pour les femmes, on a fait un petit volet d'activités génératrices de revenus en leur donnant du microcrédit. On les a regroupés en groupement. La pêche, on a mis à leur disposition des pirogues. C'est jamais assez, vous savez, c'est pour ça que nous espérons que d'ici 2019, en tout cas, ils soient beaucoup plus autonomes que maintenant.
Lydie Navigue, chef de bureau du HCR à Bagassola, au Tchad.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Au Mali, des affrontements entre Dogon et Peul, le week-end dernier dans le cercle d'Okoro, limitrophe du Burkina Faso, ont fait 31 morts, 27 Peul et 4 Dogon. Le calme est revenu depuis, ont indiqué lundi soir l'armée malienne et les sources locales. Selon les médias locaux, ces violences seraient dues au meurtre d'un Dogon à la suite d'une dispute la semaine dernière. Des cultivateurs Dogon ont alors mené une expédition punitive contre deux villages Peul du secteur de Djankagou. Un détachement des forces de sécurité s'est rendu sur place dimanche pour s'interposer entre les deux communautés, a indiqué à l'AFP un habitant de Koro. L'armée a confirmé dans un communiqué avoir mené une mission de bons offices après les violences. Cela fait longtemps que la question de l'eau et du foncier suscite des différends et des malentendus entre les agriculteurs Dogon et les Peuls qui sont éleveurs, soulignent les experts. Au Burkina Faso, les experts n'ont pas réussi à identifier à l'aide d'analyses ADN les restes supposés appartenir à l'ancien président burkinabé assassiné le 15 octobre 1987 lors du coup d'État de Blaise Compaoré. Cette expertise était très attendue pour la suite de l'instruction du dossier devant le tribunal militaire. Prosper Farama, l'un des avocats de la famille Sankara, parle des implications de ce nouveau développement de l'affaire Sankara.
En tout cas, en ce qui concerne l'identification de la tombe, évidemment que ça laisse possibilité de doute, non seulement pour Thomas Sankara, mais pour tout, pour l'ensemble des personnes qui ont été enterrées avec lui. Rien aujourd'hui ne permet de confirmer qu'effectivement, les noms qui ont été mis sur chacune de ces tombes étaient avérés. Le doute, comme vous le dites, persiste aujourd'hui. En tout cas, en ce qui concerne l'identification des restes et des tombes. Maintenant, est-ce que ça a une incidence sur la suite du procès? À mon avis, non. Parce que ce qui nous importe en tant qu'avocats, c'est de constater et de tirer la conséquence que Thomas Sankara et ses compagnons ont bel et bien été assassinés, ce qui n'est discuté aujourd'hui par personne. Et maintenant, c'est d'aller vers un procès pour établir la responsabilité des personnes qui ont été mises en cause dans cette affaire.
Prosper Farama, l'un des avocats de la famille Sankara au Burkina Faso. Au Togo, la justice togolaise a ordonné lundi soir la libération de 7 des 8 étudiants détenus depuis la semaine dernière à la suite de manifestations sur le campus de l'université de Lomé. Ils étaient accusés de rébellion et de dégradation des biens publics. Actualité américaine, maintenant, l'agence de voyage Young Pioneers Tours a annoncé aujourd'hui qu'elle cesserait d'amener des Américains en Corée du Nord après le décès de son ancien client Otto Warmbier, qui a passé 18 mois dans les prisons nord-coréennes. Ce jeune Américain de 22 ans, rapatrié le 13 juin dans le coma, est décédé lundi à Cincinnati dans l'Ohio, d'où les critiques du président Donald Trump qui a qualifié le régime nord-coréen de brutal. Otto Warmbier, un étudiant de l'Université de Virginie, avait été arrêté le 2 janvier 2016 pour avoir tenté de voler une affiche de propagande alors que le groupe avec lequel il voyageait devait rentrer à Pékin. Il avait été jugé en moins d'une heure et condamné à 15 ans de travaux forcés en mars 2016. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.